Session théologique par le père Philippe, à Rimont, le 3 novembre 90.
Et encore regarder certains aspects de ce mystère de l'Annonciation. Pourquoi ? Je vais simplement souligner quelques-uns, puis nous allons tout de suite regarder le contenu de cette foi chrétienne de Marie. Quand je regarde les diverses Annonciations de l'Ancien Testament, il y en a une que nous connaissons et que nous aimons d'une façon très particulière. C'est l'Annonciation faite à Abraham, au chêne de Mamré. Les trois jeunes gens qui ne sont qu'un, qui sont comme une annonce du mystère de la très sainte Trinité. Et puis on voit Sarah, on annonce la naissance du petit Isaac. Là, la très sainte Trinité se dérange elle-même, si j'ose dire, dans un symbolisme merveilleux. Ils sont trois, ils sont un. Ici, il s'agit de quelque chose de bien plus grand que la naissance du petit Isaac. Le petit Isaac n'est qu'une préfiguration lointaine du mystère de Jésus. Le véritable Isaac, c'est Jésus. On le sait bien. Jésus est mort sur la croix, tandis qu'Isaac n'est pas mort sur le lieu du sacrifice. Pourquoi la très sainte Trinité ne s'est-elle pas dérangée pour Marie? Marie est plus qu'Abraham, et le but est plus important. On voit très bien cela. Pourquoi envoyer un messager, l'ange Gabriel? C'est très beau, l'ange Gabriel, mais c'est quand même pas la très sainte Trinité. Alors, en fonction de l'importance du message, l'importance de l'envoyer. C'est ce qu'on fait habituellement dans les ambassades. On est habitué à ces choses-là. On envoie. Et puis, il n'y a pas que dans les ambassades. Le Saint-Père envoie. Il envoie de temps en temps un cardinal. Pouf là là. C'est très important. Puis de temps en temps, il envoie un secrétaire. C'est moins important. Puis de temps en temps, ce coup de téléphone. C'est encore moins important. Et de temps en temps, ce coup de téléphone du secrétaire. Il y a une relation, surtout dans la sagesse de Dieu. Pourquoi l'ange Gabriel? Vous voyez, aujourd'hui, on a la tendance de dire « Oh, l'ange Gabriel, non, 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 c'est une question de coutume, on envoie habituellement des anges, donc on le fait pour Marie. » Ça a toujours été comme ça, l'Ancien Testament. Il ne faut surtout pas croire que l'ange Gabriel était là. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça. Dieu a vraiment envoyé un ange. C'est dit dans le texte. Je n'ai pas le droit de le modifier. Et pourquoi l'ange Gabriel? C'est pour laisser davantage la liberté à Marie. Nous connaissons tous ça. C'est plus facile de refuser quelque chose à un envoyé de Dieu qu'à Dieu lui-même. On refuse beaucoup plus facilement à monsieur le curé qu'à monsieur l'évêque. On refuse beaucoup plus facilement à un curé qu'au Saint-Père. Il faut laisser Marie absolument libre. Un acte de choix. Fiat. Elle a dit oui. Et Dieu veut la laisser libre. Alors ça, c'est très grand. Et quand je supprime l'ange Gabriel, je ne comprends pas ça. C'est pour ça que dans un monde où on est tellement attentif à la liberté, je ne comprends pas comment on n'a pas encore compris ça. Que l'ange Gabriel était nécessaire pour la liberté de Marie. Parce que cet acte, Marie, est tellement important. Toute l'économie divine est suspendue à cet acte, Marie. Puisque tu as voulu que le mystère de l'incarnation se réalise en fonction de ce fiat de Marie. Et donc ce fiat de Marie a une importance unique. Il n'y a pas beaucoup d'actes humains qui ont eu cette importance. Coopérer avec le mystère de l'incarnation. Tu as voulu que Marie, la mère, coopère avec le mystère de l'incarnation. Dieu n'en avait pas besoin. Tu aurais pu faire très bien autrement. Ça aussi, c'est important de bien comprendre ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu que l'acte de Marie soit une liberté totale. Et c'est pour ça que l'ange Gabriel, Marie reine, n'est pas gênée par l'ange Gabriel. Surtout qu'il est si gentil et si bon. Elle n'est pas gênée du tout. Pour respecter sa liberté totale. Second point, il est très important pour nous de comprendre la manière dont s'est réalisé le mystère de l'incarnation. Tu aurais pu très bien, je ne sais pas comment Adam est apparu dans notre univers, je ne vais surtout pas entrer dans cette question. Question trop débattue, question trop discutée, alors, c'est pas la peine, je ne sais pas ce que vous pensez. Parce qu'il y a toutes les théories de l'évolution, il y a toutes les théories. Ce qui est sûr, c'est que dans l'écriture, il y a eu un moment d'arrêt. Sixième jour. Faisons l'homme. C'est la très sainte Trinité. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'y a donc pas une continuité absolue entre le dernier animal et l'homme et la femme. Il y a un moment d'arrêt. Je prends le texte tel qu'il est et tel qu'il nous est enseigné. Je ne peux pas savoir comment Dieu, parce que c'est un langage symbolique, je ne peux pas savoir. Ce qui est sûr, hein, c'est ce que l'Église nous demande, pas une autre foi. Ce qui est sûr, c'est que l'âme humaine est créée directement par Dieu, pour chacun d'entre nous. Ce qui nous montre l'intérêt que Dieu porte à nous. Pour chacun d'entre nous, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Pas seulement pour Adam, mais pour chacun d'entre nous. La très sainte Trinité a dit ça. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est extraordinaire, création de l'âme, dans le corps, pas en dehors. L'âme n'existe, comme premier moment de son existence, que dans le corps. Ensuite, au moment de la mort, elle pourra avoir son existence propre, mais elle ne l'a pas eu avant. À quel moment exactement, ça reste encore une question très difficile à bien déterminer. Faut pas aller trop vite. Faut simplement se poser la question. Et laisser les doctes en décider. Si l'Église un jour décide. L'âme est créée par Dieu. Ça c'est sûr. Le corps d'Adam, comment a-t-il été formé? Je n'en sais rien. Et vous non plus. pour ça qu'il a péché, hein. C'est bien évident. Adam n'a pas une mère. Et Ève non plus. Ils sont pas des orphelins. Non, ils sont pas des orphelins. Parce qu'ils ne devaient pas en avoir. Selon la décision de Dieu. On est orphelin quand on aurait dû avoir une mère et qu'on n'en a pas eu. C'est une privation. Tandis que pour Adam et Ève, c'est pas une privation. Donc ils n'ont pas eu de complexe, comme on dit aujourd'hui. Hein. Parce qu'autrement, on expliquerait toute la vie d'Adam et d'Ève en fonction de ça. Non, Dieu a voulu qu'Adam et Ève soient responsables de toute la race humaine. Dieu a voulu qu'ils soient princes, au sens très fort, source, première de toute la race humaine. Que d'Adam et Ève descendent tous les autres et dépendent d'eux. Le nouvel Adam, le Christ, il a voulu qu'il ait une mère. Et son père, c'est Dieu, c'est le Père. Il a voulu que Joseph soit l'époux de Marie et le gardien fidèle et le père d'une paternité par rapport à la responsabilité de ce tout petit enfant. Et donc ça, Joseph est vraiment père, mais pas père selon la chair et le sang, mais père au plan humain de la responsabilité à l'égard de l'enfant Jésus. Il a toute cette responsabilité d'éduquer l'enfant Jésus comme s'il devait l'éduquer, en ayant la totale responsabilité de la fragilité de son Dieu, la fragilité d'un tout petit enfant. Dieu a voulu cela. Alors pourquoi ? Se poser la question. Saint Luc nous montre l'Annonciation, nous montre ce qui s'est passé pendant l'attente, le premier avant, nous montre ce qui s'est passé à Bethléem. Plus de place à l'hôtellerie, ils ont été renvoyés. Noël s'est passé dans une extraordinaire pauvreté. Et les seuls qui sont venus, c'est des pauvres petits bergers. De toute la vie cachée de Jésus. Comme c'est quand même étonnant, ça. Pourquoi, ça? Ça aurait été, pour l'humanité, d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière, plus compréhensible que le Messie arrive tout de suite dans l'âge adulte comme un envoyé de Dieu ayant tout reçu de Dieu et venant éduquer les hommes et venant les enseigner. Il n'y aurait pas eu cet équivoque constant. C'est le fils de Joseph et de Marie, du charpentier. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? C'est quand même très extraordinaire quand vous vous placez du côté de Dieu, de voir que Dieu a voulu que le mystère de l'incarnation se réalise de cette manière-ci, si pauvre, j'allais dire, si terriblement humaine. face des objections. Des objections qui durent tout le temps. Tout le temps. Dernier philosophe qui est mort maintenant, mais qui l'a dit d'une façon particulièrement nette. Quelqu'un comme Merleau-Ponty, quand il a été reçu au Collège de France, donc son bâton de maréchal, il a dit dans son grand discours d'inauguration du Collège de France, parce qu'on l'avait accusé d'athéisme. Or Merleau-Ponty, quand il était anormal, supérieur, il était président du groupe des catholiques. À partir de son mariage, je ne sais pas comment, il a pu pratiquer. Et puis progressivement, on peut dire qu'il a perdu sa foi, autant qu'on peut en juger, dans le mystère de l'incarnation. Comme une chose impossible. Et il donne cette grosse objection que saint Thomas avait déjà donnée. Et que lui reprend sans connaître saint Thomas. Cette grosse objection. L'incarnation fait cette terrible confusion entre ce qui est créé et ce qui est incréé. Puisque c'est Dieu qui descend dans le temps. Or Dieu est éternel. Si Dieu est éternel, il est éternel. Il n'est pas dans le temps. Si Dieu est éternel, il est éternel, il n'est pas dans le temps. Or, avec le mystère d'incarnation, le Christ, qui est Dieu, est dans le temps. Dieu est infini. La créature est finie. Avec l'incarnation, l'infini assume le fini. Jésus est à la fois fini et infini. Donc, l'incarnation, c'est une stupidité. Merleau-Ponty ne dit pas ça, mais au fond, il dit ça. C'est ça qu'il veut dire. C'est une invention des hommes. Dieu, dans sa sagesse, ne peut pas inventer ça. C'est impossible d'inventer ça. Puisque c'est une confusion entre le divin et le créé. Entre le divin et l'humain. C'est mettre Dieu dans le temps. Mais c'est une objection très captieuse. Hein. Parce que là, on a l'air de défendre Dieu. Et alors Merleau-Ponty se défend en disant, c'est vrai, j'ai toujours dit cela, mais je crois qu'il existe un être premier, un être souverain, qui est éternel, qui est en dehors du temps. Je suis comme Socrate, dit-il. Je veux intérioriser ma foi, ma confiance en Dieu. Mon adhésion de Dieu, et non pas la matérialiser dans le mystère d'incarnation. C'est grossier. C'est la continuation des idoles. C'est un idole. On dit qu'un homme est Dieu. On dit qu'une femme engendrait Dieu. Mais c'est impossible qu'une femme engendre Dieu. C'est absolument impossible. Et regarder le Christ et dire qu'il est Dieu, mais c'est la continuation des idoles. Si ce n'est que c'est un peu mieux, c'est un idole qui est particulièrement réussi. Mais c'est quand même quelque chose qui est idolâtre. Mais c'est intéressant de voir que Thomas d'Aquin touche l'objection qu'un philosophe de notre temps lui-même a souligné. Et il l'a vécu, hein, c'est pas seulement relever une objection. Il l'a vécu. Devant ça, que dit saint Thomas? Saint Thomas prend simplement le grand motif de la bonté de Dieu. Dieu est souverainement bon. Dieu seul est bon. La bonté de Dieu est unique. Dieu est bon dans tout ce qu'il est. Ordinairement, nous sommes bons. Le matin, quand on est frais. Et puis le soir, quand on est très fatigué. Vaut mieux pas trop nous approcher de nous. Les griffes reviennent. On est moins bon. Dès qu'on est fatigué, dès qu'on est une chose à rater, un échec, ça arrive. Mais quand le mari revient après avoir travaillé toute la matinée et qu'il n'a eu que des échecs successifs, la pauvre est plus qu'il peut. Il peut unir la créature à lui-même dans une union personnelle. Faire que Dieu et l'homme deviennent une personne. Ce n'est pas contraire à la bonté de Dieu. Ce n'est pas contraire à sa toute-puissance. Ce n'est pas contraire à sa justice, puisque c'est de la pure gratuité et de la pure miséricorde, c'est un amour pur. Voilà la réponse de saint Thomas, vous voyez. Quand il s'agit de l'incarnation, de voir ce grand mystère de Dieu qui vient nous visiter, ce n'est pas seulement une parole de Dieu. Ce n'est pas seulement un geste de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne en personne. Et il se donne à une petite créature qu'il assume dans l'intimité de sa propre personne pour qu'elle soit le Christ, pour qu'elle soit notre Sauveur. Dieu peut se communiquer jusque-là. Si ça nous scandalise, c'est parce que nous ne sommes pas bons. Vous savez, la parole de Jésus, hein, quand il dit ne te scandalise pas devant une bonté, la bonté du Père de l'enfant prodigue, la bonté de Jésus qui pardonne à la femme adultère, la bonté de Jésus qui accepte d'être, d'aller dîner chez des pêcheurs publics. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il montre que sa miséricorde est infinie, qu'elle est débordante. Et il corrige. Il ne faut pas que tu condamnes parce que toi, tu n'es pas aussi bon, parce que ton œil est mauvais. Et c'est très vrai que la bonté de Dieu qui va si loin peut scandaliser un philosophe. Mais pas un homme. Hein. Un homme ne sera jamais scandalisé par la bonté. Un philosophe peut l'être si sa philosophie ne va pas si loin dans l'ordre de la réalité. Parce que la réalité est bonne. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il dit que c'est bon. Tandis que les idées du philosophe ne sont pas bonnes, elles sont limitées. Alors ça agace le philosophe de toucher une bonté quasi illimitée. On comprend très bien ça. Mais l'homme n'est jamais fatigué de la bonté. La vraie bonté. Hein. Quelquefois peut-être fatigué d'une bonté qui n'est plus une bonté que lente, vous savez, c'est une bonté qui... Il s'abandonne, comme disait, très bien, une bonté qui n'est plus une vraie bonté. La vraie bonté implique toujours une fermeté, une force. Et on n'est jamais scandalisé par la bonté. Le mystère d'incarnation exprime Dieu qui, dans sa bonté, va jusqu'aux limites, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas de limite, jusqu'au bout de sa bonté. C'est la bonté infinie de Dieu qui se manifeste à nous à travers l'incarnation. C'est ça qui est si prodigieux. C'est vraiment la bonté infinie de Dieu qui se communique à nous. Dieu se donne et il se donne à nous à travers un visage humain, à travers un tout petit être. Alors je comprends, si vraiment c'est la bonté qui commande tout le mystère de l'incarnation, on comprend qu'il faut aller le plus loin possible dans la communication de la bonté. Et aller le plus loin possible dans la communication de la bonté, c'est justement faire qu'il se donne à travers la petitesse de l'enfant. Et pour se donner à travers la petitesse de l'enfant, pour que ce soit parfait ce don. Un enfant n'est parfaitement donné qu'à sa mère. C'est ça qui émeut le plus la mère. Un enfant n'est parfaitement donné qu'à sa mère. Et par la mère sera donné au père. C'est la mère qui le porte. C'est en elle que se fait la conception. Premier moment, dans la petitesse. C'est elle qui le porte pendant 9 mois. C'est elle qui, au moment de la naissance, est tout pour lui. Parce que tu as voulu que le petit enfant naisse dans la fragilité, à la différence des animaux. Parce que les animaux n'ont pas besoin de mère. C'est curieux, mais c'est comme ça. Tandis que le petit de l'homme a besoin d'une mère. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment tu as voulu que tous les moments successifs par où un homme est passé, chacun d'entre nous, nous avons été à un moment donné conçus dans le sein de notre mère. On ne s'en rappelle pas. À un moment donné. C'est pour ça qu'on a vis-à-vis de sa mère une reconnaissance qui dépasse tout, puisqu'elle aurait pu ne pas nous garder. Tous les moments par lesquels nous sommes passés, Dieu a voulu que son Fils bien-aimé les assume, les prenne, les vive. Le Christ a vécu tous ces moments successifs. Tous. Dieu a voulu être conçu par Marie. Dépendre d'elle. Et l'enfant Jésus, alors là, c'est le grand, grand mystère pour nous. Dans son âme humaine, Jésus avait conscience de cela. Une conscience parfaite. Nous n'avons pas eu conscience. Quand on regarde ce que les savants peuvent dire sur tout point de vue de la formation de l'embryon, et qu'on s'y en a été seul. C'est merveilleux, c'est étonnant, parce que ça donne une vision merveilleuse de la sagesse de Dieu. Il a voulu qu'il y ait cette interdépendance entre l'enfant et sa mère. Il a voulu qu'il y ait cette coopération du Père et de la Mère. Et quand il s'agit de l'enfant Jésus, il a voulu qu'il n'y ait que Marie. Conception virginale, maternité virginale, sous l'action de l'Esprit Saint. Donc une maternité miraculeuse, sous l'action de l'Esprit Saint. Tout s'est déroulé comme selon les voies normales de la nature, mais sous l'action de l'Esprit Saint. Pourquoi là encore Dieu a-t-il voulu que sa mère soit vierge? Pourquoi a-t-il voulu cette conception virginale, cette maternité virginale? Pourquoi? C'est pour que nous comprenions mieux ce qu'est la paternité de Dieu. sa cellule des petits oiseaux. Pour voir comment ils mangent et comment ils se développent. J'en suis sûr. C'est un petit laboratoire. Albert le Grand dit, il n'y a pas un enfant qui a été aussi uni à sa mère que Jésus à Marie. Parce que la maternité divine de Marie, la maternité de Marie étant une maternité miraculeuse, elle est donc plus parfaite que toutes les autres maternités. Il dit ça à la suite de saint Augustin qui dit que quand Dieu intervient directement, remplaçant le cours normal de la nature, puisque Dieu est l'auteur de la nature, s'il remplace la nature, il fait les choses mieux que la nature. Façon plus parfaite. Saint Augustin dit ça à propos du second du vin de Cana. Il dit, c'est évident, quand Dieu est vigneron, il fait de l'excellent vin. Très dommage qu'on n'a pas une bouteille qui restait là. Meilleur que tous les vins de Bourgogne. Des meilleurs crus. C'est sûr. Et ça a été remarqué, hein. Ça s'est resté. C'est bien obligé de l'affirmer. Quand Dieu intervient, il fait les choses mieux que la nature. Alors, la maternité de Marie est plus parfaite que n'importe quelle autre maternité. Il n'y a pas une maternité plus parfaite. Et donc, le lien entre l'enfant Jésus et Marie est unique. Il ne ressemble qu'à sa mère. D'habitude, il y a toujours les deux atavismes qui se battent, le haut de la figure et le bas, le point de vue moral, psychique et le point de vue physiologique. Là, un seul atavisme, ressemblance unique. Et ceci, vous voyez, c'est très beau, ça, comme vision de l'unité pour que Dieu soit plus semblable à sa créature. Marie étant la créature la plus parfaite, il faut que Dieu soit tout proche d'elle. Et pour être tout proche d'elle, il fallait cette maternité virginale. Il y a une espèce d'absolu, vous voyez, dans l'amour, pour que le lien entre l'enfant Jésus et Marie soit plus parfait que tous les autres. Dieu a voulu que tous les liens qui existent entre un enfant et sa mère soient vécus par Jésus, par le Fils bien-aimé du Père. Il a voulu que l'unité entre la nature divine du Verbe, du Fils, et la nature humaine, dont le corps a été formé par Marie, sous l'action de l'Esprit Saint, et l'âme créée directement par Dieu dans ce corps. Il a voulu que cette nature humaine du Christ soit absolument parfaite, mais sur le modèle de Marie. C'est pour ça que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort n'hésite pas de dire que Marie est le moule de Dieu. Comme si l'humanité du Christ avait été moulée sur le modèle de Marie. Et c'est vrai, il dépendait de sa mère, selon les lois biologiques les plus parfaites, uniques. C'était lui qui ressemblait à sa mère, comme un enfant ressemble à sa mère. Et comme Marie était immaculée, il y avait comme une coupure à l'égard de tout l'atavisme qui aurait pu charrier des quantités de choses plus ou moins limpides. Il fallait le mystère de l'Immaculée Conception pour qu'il y ait comme une reprise radicale pour que l'humanité sainte du Christ soit parfaite. Alors cette union que nous appelons l'union hypostatique, j'explique, puisqu'il faut quand même comprendre cela, tu dois le comprendre, c'est un mystère, c'est un grand mystère, c'est le mystère même transformé par une âme absolument parfaite, divinisée par la grâce et portée dans ce mystère de l'union hypostatique. Alors, quand nous parlons du mystère de l'incarnation, du Verbe,
Session théologique par le père Philippe Arimont, le 4 novembre 90.
En terminant hier, j'étais rapide à cause de l'heure. Je reviens quelques instants sur cette manière dont l'Église, progressivement, par les pères de l'Église, les théologiens, les apôtres, les saints, ont essayé de comprendre dans l'Évangile et à travers l'Évangile ce mystère de Jésus, et je dirais spécialement l'évangile de Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, ce qui est frappant, c'est cette affirmation de Jésus. Qu'il montre, je suis la lumière du monde, et le je suis, qui prend une signification très très forte, parce que la grande révélation de Dieu était Dieu qui à Moïse dit « Je suis celui qui est ». Et Jésus reprend cette affirmation « Je suis ». Et c'est à travers ces diverses affirmations de Jésus, c'est à travers toute la vie apostolique de Jésus que l'Église précise pour regarder, contempler le mystère. L'Église précise qu'il y a une seule personne dans le Christ. Et cette personne, c'est le Fils bien-aimé du Père. C'est l'affirmation la plus forte. Il est Dieu. Et il est l'envoyé du Père. Pas n'importe quel envoyé, les prophètes étaient des envoyés. Lui, il est le Fils. Et voyez l'enseignement même de Jésus, dans ses paraboles, quand il parle de cette vigne qui appartient aux vignerons, et que successivement, on est venu pour travailler à la vigne et pour prendre les fruits de la vigne. Comment successivement on envoie des ouvriers, puis le Fils. Et le Fils, c'est bien Jésus, pour travailler à la vigne du Père, l'Église, le peuple de Dieu. Il est le Fils bien-aimé du Père, et il a assumé a pris sur lui, en lui, toute la réalité profonde de la nature humaine, de l'homme, concrètement. Cet homme qui est Jésus est un homme comme nous tous, pour bien montrer qu'il appartient à cette race humaine. Il a voulu naître de Marie. Il est né d'une femme, d'une manière miraculeuse, c'est sûr, pour que par ce miracle, on voit mieux et on comprenne mieux qu'il n'a qu'un seul père. Et que Marie, dans sa maternité, est comme la manifestation pour nous, j'allais presque dire le sacrement de la paternité, elle nous manifeste ce mystère éternel du Verbe, du Fils bien-aimé, du Père, qui a assumé une nature humaine dans sa propre personne pour nous faire comprendre qui était le Père. Ici. certains dormants. On a durci certaines positions. Ça doit se poser la question. Dans les convenances de l'incarnation, il se pose la question. Est-ce que le Christ est venu premièrement comme sauveur? Ou est-il venu premièrement pour mettre un achèvement à toute la création, l'achèvement de l'homme? Vous voyez, ça fait deux spiritualités très différentes. Dans le concret, et je crois que toutes les batailles qu'on voit aujourd'hui au point de vue catéchétique, il ne faut pas se cacher, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a quand même des points de vue différents, radicalement proviennent de l'homme. C'est toujours intéressant de voir que toutes les positions apostoliques, catéchétiques, reposent sur des positions théologiques. C'est du reste normal, j'allais dire surtout en France. J'ai interrogé quelquefois des prêtres italiens ou des prêtres espagnols. C'est en France où l'aspect intellectuel de la théologie joue le plus dans l'application apostolique. Ça bien, du reste. En Italie, c'est plus par rapport à des hommes. Il y a tel cardinal qui a son influence, tel évêque qui a son influence. C'est plus par rapport à des hommes. Mais en France, c'est très nettement. Alors, ça a un danger, c'est que ça vient des idéologies. Et ce n'est plus la théologie qui n'est pas une idéologie, puisque c'est la foi. Alors là, évidemment, je prends une position nette qui est celle de saint Thomas, qui est la position de l'Église, puisque l'Église, même dans Vatican II, continue de dire que saint Thomas est le théologien sur lequel on peut s'appuyer avec le plus de sûreté. Comme disait en tant que dominicain, je dis ça là. Aussi pour la communauté Saint-Jean, puisque la communauté Saint-Jean veut être fidèle à Saint-Thomas. J'ai déjà dit plus d'une fois que quelqu'un qui entrerait dans la communauté Saint-Jean en étant en opposition radicale vis-à-vis de Saint-Jean, et vous vous êtes trompé de porte. Enfin, radical contre Saint-Thomas, vous vous êtes trompé de porte. Parce que on veut être pleinement et totalement dans le sens que l'Église nous demande, sans discuter vis-à-vis des autres, c'est pas la peine de quereller tout le temps, mais il faut savoir la position. Alors, je vous rappelle, saint Thomas se pose la question, le Christ serait-il, le Verbe serait-il incarné? Le Christ aurait-il existé? L'incarnation aurait-elle eu lieu s'il n'y avait pas eu le péché? Donc vous voyez bien l'interroger, il faut bien voir la question posée. Ou au contraire, devons-nous dire, de facto, le Christ est venu, le Verbe s'est incarné pour nous sauver du péché, pour nous racheter. Et ensuite, en même temps, vous comprenez bien, faire de nous des enfants de Dieu, il nous rachète pour faire de nous des enfants de Dieu, c'est le premier but. Pour être des enfants de Dieu, il faut être sauvé du péché, il faut avoir la grâce. Et ensuite, il y a un achèvement, c'est bien évident. La question de l'humanisme chrétien, il y a un achèvement par rapport à l'homme. L'homme le plus parfait, c'est le Christ. Vous ne pouvez pas inventer un homme plus parfait que Jésus. C'est l'homme par excellence. Mais c'est en même temps l'homme de douleur. Alors, quelques mots là-dessus. Hein. Assez rapide, mais c'est important. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Puis on consacrera ce soir, après avoir bien compris ça, qu'est-ce que c'est que le mystère de la rédemption par la croix. Saint Thomas
trop simple. Le mystère de l'incarnation dépend d'une volonté libre de Dieu. Volonté libre de Dieu. Tu aurais pu très bien ne pas s'incarner. C'est pas une nécessité, comme si la très sainte Trinité avait besoin de s'incarner pour être plus parfaite. Non. Exactement comme pour la création. La création est une œuvre libre de Dieu. Tu aurais pu très bien ne pas créer. Mais on ne serait pas là. Si Dieu a créé, c'est un acte libre de sa sagesse et de son amour. La créature que nous sommes, puisque nous sommes la créature la plus parfaite, on n'a qu'à se regarder, on sait très bien qu'on est la créature la plus parfaite. On est chef-d'œuvre de Dieu. Drôle de chef-d'œuvre, c'est quand même le chef-d'œuvre de Dieu. On doit se le dire, hein, et on doit le maintenir. Parce qu'aujourd'hui, hein, vous savez bien, Freud dit, hein, oh les hommes se sont gonflés, ils se sont gonflés en se considérant comme le chef-d'œuvre de Dieu, ne le sont pas du tout. Et les dernières découvertes le montrent bien. Parce que la Terre n'est plus au centre de l'univers, l'homme, selon la théorie de l'évolution, est lié à l'animal. Et puis quand on regarde l'homme, c'est au fond le complexe de type qu'il définit. Donc c'est pas le chef-d'œuvre de Dieu. Il dit ça textuellement. Alors que tous les pères de l'Église, disent que l'homme est chef-d'œuvre de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté après avoir créé les anges. Pourtant, ils sont myriades de myriades. Ça a beaucoup de frères aînés, vous savez. Dans la famille est très très nombreuse. Très très nombreuse. Elle est très belle. Il y a nos frères aînés sont, ou nos sœurs aînées, puisque les sœurs, les anges sont tout aussi bien des frères que des sœurs. Pour les sœurs, les anges sont des sœurs. Et pour les frères, les anges sont des frères. N'est-ce pas ? Vous voyez bien. De temps en temps, ils sont des sœurs pour les frères. Ma sœur Gabrielle, oh ce qu'elle est gentille. Mon frère Michel, ça c'est plus. Mon frère Michel, ça il est rude, mon frère Michel, ça. Il a, il combat bien. Alors ça c'est mon frère Michel. Je peux très bien dire ça. Ils sont au-dessus. La distinction de l'homme et de la femme, ils sont des anges. Dieu a créé des anges en myriades merveilleux. Puis Dieu ne s'est pas arrêté là. Il aurait pu s'arrêter. C'était quelque chose d'inouï. Mais pour nous, il est un grand-père. Il est père des anges et grand-père des hommes. C'est sûr. Dieu n'a pas voulu s'arrêter là. Il a voulu créer un univers physique. Et dans cet univers physique, au sommet, l'homme et la femme. Chef-d'œuvre de Dieu. Et la femme en dernier lieu. Elle l'a benjamine, la femme. L'homme n'est pas le benjamin. Dieu s'est reposé après avoir créé la femme. Vous savez, quand il avait son chef-d'œuvre, c'est merveilleux. Il s'est arrêté. Il s'est mis à gouverner le monde. Et c'est vrai, regardez le second récit de la Genèse, vous verrez bien. J'invente rien. J'essaie de comprendre. Et Lucifer a trouvé que c'était complètement stupide de ne pas s'arrêter. Les anges, c'est ce qu'il y a de mieux. Dieu ne peut pas créer quelque chose de mieux. Et il s'est révolté contre Dieu. La première révolte, elle est dans le ciel. Le premier péché, il est dans le ciel. C'est Lucifer. Et derrière lui, toute une bande d'anges qui ont été déchus. Donc, il y a, à la suite de la création des anges, il y a un désir de Dieu d'aller plus loin dans sa bonté. Mais c'est toujours la bonté de Dieu. C'est toujours la bonté de Dieu. Dieu seul est bon. Et Dieu a voulu aller plus loin pour communiquer davantage sa bonté. Pour faire des êtres dans lesquels il puisse communiquer sa fécondité. Les anges ne connaissent pas la fécondité. Les anges ne connaissent pas l'amitié. Ils connaissent le mystère de la charité. librement l'univers physique. Et ça n'ajoute rien à Dieu. La création n'ajoute rien à Dieu. Elle ne peut rien ajouter à Dieu puisque Dieu est infini. Et le mystère de l'incarnation relève d'une bonté unique de Dieu. D'une bonté encore plus grande, plus merveilleuse pour chacun d'entre nous. Par l'incarnation. Parce que dans l'incarnation, c'est pour nous qu'il a fait l'incarnation. C'est pour nous et c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas pour l'humanité.
C'est pas quoi leur réponse.
premier péché est un péché d'orgueil. Et le péché dominant, c'est le péché d'orgueil. Le péché dominant pour chacun d'entre vous, j'ai pas besoin de vous connaître plus. Je peux dire que le péché dominant pour chacun d'entre vous, c'est l'orgueil. Pour toute l'humanité, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucune originalité dans nos fautes. On est complètement idiots quand on croit qu'on a de l'originalité dans ses péchés. C'est aucune originalité. Notre seule originalité, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Aucune originalité dans notre orgueil. Mais non, on imite Ève. Et on imite Lucifer. Aucune originalité. C'est très important de comprendre ça. Parce que psychologiquement, on a toujours un petit coin où on pense être original dans nos fautes et dans nos tentations. Alors, aucune. L'originalité, elle est dans notre manière d'aimer. D'aimer Jésus, d'aimer le Père, d'aimer nos frères, divinement et humainement. révélation. Le premier regard sur Jésus, c'est celui de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean. Et il nous dit, voici l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Jésus vient pour porter l'iniquité du monde. Il prend sur lui tout le poids de l'iniquité du monde comme agneau. Il vient donc pour être notre sauveur. Je crois que c'est très net quand on regarde l'Écriture, toute l'Écriture, et tout spécialement l'Évangile de Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Jésus a dit que encore dans Saint Jean. Mais le grand discours, il ne faut jamais l'oublier, la grande leçon de théologie, la leçon de théologie par excellence, on a le temps ce soir, on terminera par cette leçon de théologie, la plus magistrale qui a été donnée, c'est Jésus face à Nicodème, face à ce docteur de la loi, qui est très conscient d'être docteur de la loi. Jésus face à un théologien. C'est intéressant, parce qu'on voit comment Jésus rappelle à ce théologien ce qu'est l'essentiel. Donc, pour saint Thomas, si je regarde l'Écriture, je vois que le mystère de l'incarnation est en vue de la rédemption. Et saint Thomas souligne ensuite, il est évident que Dieu aurait pu, puisque rien n'est impossible à Dieu, il est évident que Dieu aurait pu réaliser le mystère de l'incarnation indépendamment du péché. Saint Thomas le reconnaît comme une possibilité de la toute-puissance de Dieu. Dieu aurait pu faire ça. Mais de fait, si je regarde la révélation, je vois que l'incarnation est en vue de la rédemption. Alors, si Dieu aurait réalisé le mystère de l'incarnation indépendamment du péché, la finalité propre de ce mystère de l'incarnation aurait été pour achever la création de l'homme et de la femme. Pour que l'homme, dans le Christ, dans le Verbe incarné, pour que l'homme se termine en Dieu, de cette manière la plus éminente qui soit, par le mystère de l'incarnation, pour que l'homme puisse exister grâce au mystère de l'incarnation, dans la très sainte Trinité. Et donc pour que l'homme, par le mystère de l'incarnation, connaisse une plénitude, une perfection unique. Mais saint Thomas considère que c'est une possibilité, on n'a pas le droit de la rejeter, mais que ce n'est pas cela notre foi chrétienne. Donc voyez bien, notre foi chrétienne consiste à regarder le mystère de l'incarnation en vue de la rédemption. Si vous avez là des petites difficultés,
François qui a dit ça. C'est un... Don Scott. C'est pas sa bande aventure non plus. Don Scott est un théologien anglais. Franciscain. Qui, lui, a tout de suite pris cette possibilité et l'a mise en pleine lumière en disant on exalte plus le mystère de l'incarnation en regardant l'incarnation premièrement comme achevant l'univers, achevant l'homme, et en second lieu le mystère de la rédemption. Donc vous voyez, c'est très curieux, hein. Je mets ça au tableau pour que vous voyez bien, parce que c'est au fond d'un ordre, c'est une question d'ordre. Quelle est la finalité première? La finalité première, donc principale, du mystère du Verbe devenu chair, pour employer l'expression de saint Jean. Quelle est cette finalité première? La rédemption, sauver les hommes. Donc le Christ est sauveur. Ensuite, en second lieu, finalité seconde, glorifier, achever plus exactement. Qu'il y a là une répercussion. l'Église qui a décidé le mystère d'incarnation. C'est le Père. Dans quelle intention? Oui. Le mystère du Christ est pour nous le modèle de toute notre vie chrétienne. Il s'agit donc de comprendre cette parole que Jésus dit à Marie d'une manière si forte dans les mystères du rosaire. Cinquième mystère joyeux. Vous le connaissez bien, cinquième mystère joyeux. Marie redécouvre Jésus au temple quand Jésus, de 12 ans, enseigne au docteur de la loi. Le premier enseignement que Jésus a donné, c'est pour les théologiens. Il ne faut pas l'oublier. Et Marie a souffert. Et Joseph a souffert. C'est pour ça que Joseph est patron des théologiens. Parce qu'il a souffert. Pendant 3 jours, ils ont connu une grande souffrance. Jésus avait disparu. Jésus aurait pu dire, ça aurait été tellement facile. Non. Il fallait que Marie et Joseph coopèrent à ce premier enseignement. Ils ont souffert, ils ont été unis à Jésus de façon mystérieuse et divine. À ce premier enseignement de Jésus. Jésus dit à Marie cette chose étonnante, ça fait partie de ces rencontres de Jésus et de Marie qui sont toujours si difficiles à bien creuser. Quand Marie dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi nous as-tu fait cela? C'est tellement normal. Jésus répond, pourquoi me cherchez-vous? Ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père? Jésus est tout entier aux affaires du Père. C'est donc très important pour nous de regarder cet ordre de la sagesse du Père, puisqu'il est tout entier pour cela. Donc on peut dire que l'intention dominante du cœur du Christ, c'est d'accomplir la volonté du Père. Et cette volonté du Père, est-ce que c'est pour achever l'œuvre de la création? Ou est-ce que c'est pour premièrement sauver les hommes? Voyez l'importance. L'Église doit elle-même être tout entière aux affaires du Père. C'est le souci dominant du pape. C'est le souci dominant des évêques. C'est le souci dominant des prêtres. Être tout entier aux affaires du Père, c'est le souci dominant de tout chrétien. La direction spirituelle n'a pas d'autre sens que ça. Être tout entier aux affaires du Père. Alors, c'est important de savoir, est-ce que c'est premièrement coopérer au salut des hommes? À la suite de Marie? Ou est-ce que c'est premièrement achever la splendeur, la perfection de l'univers? Ça change tout dans notre vie. Ça n'a l'air de rien, mais vous, on le verra mieux en voyant comment se réalise le mystère de la rédemption. C'est donc une question capitale, c'est pas une petite question d'école en disant non, non, c'est une question capitale, et pour saint Thomas, on le sent bien. Comment sont traités sur l'incarnation de cette manière? Il s'agit de découvrir le plus qu'on peut l'ordre de la sagesse de Dieu. Puisque le mystère du Christ est, on peut le dire, la pièce dominante de toute l'économie divine. Tout est en fonction du Christ. Tout est pour lui. Et tout dépend de lui. Oh, c'est ce que nous disons. Par lui, avec lui et en lui. Nous disons ça à chaque Eucharistie. Alors, si on comprend bien, et toute l'Église est là, par lui, avec lui, en lui, tout entier aux affaires du Père. Pour, de fait, vivre ce mystère du salut des hommes et l'achèvement du mystère de la création. Donc réfléchissez bien à ce point de vue-là, parce que c'est ça qui éclaire tout. Le fils, à quelle heure ?
11h15.
11h15. Et alors, ça sonne pour... On a encore 5 minutes. Hein ?
25 minutes.
Ah non, je crois. Parce que... C'est l'ordre express de terminer ce temps-là.
Là, vous avez au moins 25 minutes.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Vous avez encore au moins 25 minutes, si vous voulez.
Vous voyez que pour Saint Thomas, je me place dans cette perspective-là, parce que je crois que c'est celle qui va le plus loin. Tout le mystère de l'incarnation, s'il se réalise en vue de la rédemption, et que le mystère de la rédemption se réalise par le mystère de la croix, de fait, saint Thomas va à partir de là comprendre le pourquoi du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire comment Jésus a assumé, selon la volonté du Père, une nature humaine parfaite. Soit absolument pur, sans aucune tache, et parfaite parce que la nature humaine, unie au Verbe de Dieu, doit être aussi dans cette parfaite pureté. Mais comment cette nature humaine aussi est une nature capable de souffrir?